13-14, Bruno Duvic.
Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, plus de 90 000 cas quotidiens de Covid en France, record, les mailles du filet sont encore resserrées. Délai réduit de 5 à 4 mois entre primo-vaccination et rappel dès maintenant. Et test obligatoire pour tout le monde avant d'embarquer outre-mer à partir de mardi prochain. À propos de la Guadeloupe, on ne négocie pas une loi de la République. Message du gouvernement aux anti-vaccins obligatoires pour les soignants qui ont occupé le conseil régional cette nuit. Le variant Omicron et les arrêts de travail, inquiétude des petites entreprises du bâtiment. Un salarié malade, c'est l'activité qui est fichue. La reprise est-elle menacée? Nous verrons avec l'économiste Marc Touati. À part ça, c'est Noël. Course de dernière minute, manque d'idées pour le Père Noël. Romain, qui travaille dans ce grand magasin de jouets, voit passer un paquet de gens perdus.
Ça a marqué des générations et c'est vrai que des fois, quand on n'a pas trop d'idées pour notamment les plus jeunes, ben on revient vers des trucs qu'on connaît. Et ce qu'on connaît, ben c'est Pokémon qui a fêté les 25 ans. Donc c'est pour ça que ça marche aussi et puis ça fait ses preuves.
Hein. Et ben voilà, les classiques. Avec Stéphane Capron, nous recenserons la liste des spectacles de Noël garantis sans annulation pour l'instant. Et à quelques heures de la messe de minuit, cette question, le catholicisme a-t-il encore de l'avenir en France? Chute de la pratique et même du nombre de personnes qui se disent catholiques. Rapport sauvé, nous en parlons avec l'historien Guillaume Cuchet. Vos questions au 01 45 24 7000. Dans l'actualité encore, Éric Zemmour, une controverse après l'autre. Des insultes tracées près du domicile de Marine Le Pen par des inconnus qui se revendiquent de lui. Plus 16%, un accord sur les salaires trouvé dans l'hôtellerie-restauration. Et puis vos rendez-vous dans le 13-14, Jean Lebrun, histoire du corbeau, mais oui, et la musique avec Anna Sigalevitch. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Pas de pèlerins à Bethléem ce soir, les frontières sont fermées, le masque est obligatoire à l'extérieur en Grèce et en Espagne, annonce similaire en Italie. Noël se fête à nouveau sous Covid, en France comme à l'étranger. On fait le point de la situation en France dans un instant. D'abord, reportage à New York, comme à Paris et dans les autres villes de l'Hexagone. Les files d'attente s'allongent à New York devant les centres de test. Ce sera décidément l'image de ces fêtes, entre guillemets, de 2021. Le Glory.
À deux pas du marché de Noël de Union Square, Katie sort d'un centre de vaccination, le moral dans les chaussettes. Cette année encore, les fêtes ne se feront pas en famille.
J'ai décidé de ne pas rentrer parce que je n'avais pas reçu mon rappel. Pas le choix, je prends plus de précautions pour les vacances. Mais je crois que pour beaucoup de monde, ça ne sera pas un frein pour voyager.
Raison pour laquelle les files d'attente s'étirent devant les tentes de test. Kim et ses deux amis qu'à contact patientent dans le froid, histoire de pouvoir rejoindre leur famille.
On va attendre, histoire d'avoir la certitude que nous n'allons pas risquer de contaminer nos familles. Toutes les trois, on a annulé nos plans pour le nouvel an, on va plus au restaurant. Il faut ce qu'il faut, être responsable et attendre de voir.
Des restaurants en partie désertés, pas aidés non plus par de nouvelles restrictions, comme la vaccination obligatoire pour les plus jeunes. Tyler, patron d'un café à Manhattan. Pensez aux touristes qui viennent ici depuis des pays où il n'y a même pas de vaccination pour les enfants. Ils ont dépensé des milliers de dollars pour l'avion, l'hôtel, et maintenant ils sont à New York pour les vacances et ils ne peuvent même pas aller au restaurant. C'est dingue. Un Noël au rabais avant un nouvel an. À l'avenant, 15 000 personnes seront admises à Times Square le 31 contre 4 fois plus avant la pandémie. New York, Loïc Loury, France Inter.
Et des États-Unis arrive aussi une histoire qui rappelle ce qu'on a connu au début de la pandémie. Le bateau Covidé, 55 personnes positives à bord d'un navire de croisière parti samedi de Floride. En France, le nombre de nouveaux cas quotidiens continue d'augmenter et nettement. C'est simple, depuis que l'on mesure précisément, on n'en a jamais relevé autant. 91 608 enregistrés hier. Le précédent record datait de novembre 2020 à 87 000. Alors depuis mercredi, les enfants 5-11 ans peuvent être vaccinés. Et à propos de la vaccination, bonjour Hélène Chevalier.
Bonjour.
On resserre encore les mailles du filet entre primo-vaccination et rappel.
Oui, le ministère de la Santé l'a annoncé ce matin. Le délai de 4 mois entre deuxième et troisième dose est effectif à partir d'aujourd'hui. À l'origine, ce changement était prévu début janvier. Le but, c'est d'accélérer que le maximum de Français puissent accéder à cette dose de rappel et qu'Omicron ne désorganise le pays comme l'anticipait hier le Conseil scientifique. 40 millions de personnes sont donc dès maintenant éligibles à cette nouvelle injection, sachant que 22 millions l'ont déjà reçu, un délai qui pourrait être encore raccourci dans les prochains jours. La Haute Autorité de Santé va en effet plus loin dans un avis publié ce matin. Elle recommande de passer à 3 mois sa présidente Dominique Le Guludec.
Les raisons sont simples. Comme d'habitude, nous voulons éviter le maximum les hospitalisations et les réanimations. Et la vaccination actuelle par les ARN a une efficacité qui dure nettement moins longtemps vis-à-vis d'Omicron. Elle commence à baisser dès le troisième mois et elle atteint 34% à 4 mois. Donc vous voyez, elle est nettement plus basse qu'avec le Delta et avec la souche originale.
Alors qu'après le rappel, cette efficacité vaccinale remonte à plus de 75%, estime la HAS. L'autorité de santé qui préconise par ailleurs l'ouverture de cette dose de rappel aux 12-17 ans fragiles, se souffrant d'une immunodéficience et d'une comorbidité. Pas de généralisation pour le moment à tous les adolescents. Des études du laboratoire Pfizer sont encore attendues sur son efficacité et sur sa posologie. Une demi-dose pourrait en effet suffire.
La relativement bonne nouvelle du jour, c'est que la courbe des hospitalisations reste assez stable. En légère hausse tout de même, 3208 patients en soins critiques. Au-delà de l'arrivée de nouveaux patients, ce qui inquiète les hôpitaux, la plupart en plan blanc, c'est le manque de bras. Vacances, plus épuisement, plus soignants malades ou cas contact. Quelle est la carte des hôpitaux les plus sur le fil? Véronique Julia, vous avez fait un tour d'horizon avec la Fédération hospitalière de France. On parle d'adapter la politique de cas contact. C'est une possibilité qui existe déjà dans les hôpitaux.
À l'hôpital public, l'absentéisme est grosso modo en ce moment d'environ 10%, avec des pointes dans certains services jusqu'à 15 à 17%. Vous ajoutez à cela la vague qui monte et des personnels à qui on a tenu à accorder leur congé car ils avaient besoin d'un peu de répit. Les effectifs sont restreints et si des cas contacts ou des cas positifs s'en mêlent chez les soignants, on risque de ne plus pouvoir assurer le service. Pour éviter la catastrophe, il y a bien sûr les réquisitions possibles dans le cadre du plan blanc. Il y a aussi ces recommandations du Haut Conseil de Santé publique rendu en avril dernier durant la troisième vague. Elle prévoyait déjà qu'en cas de tension hospitalière, on puisse déroger aux règles habituelles et on fasse travailler cas contact et cas positif sans symptômes chez les soignants. Zaina Briet est la déléguée générale de la Fédération hospitalière de France.
Il est prévu la possibilité du maintien en exercice des professionnels vaccinés asymptomatiques positifs. Pour les professionnels cas contact, l'éviction ne doit pas être systématique dès lors que nous sommes dans l'obligation d'assurer la continuité des soins et que nous sommes en difficulté pour le faire.
Tout cela est bien sûr conditionné au strict respect des gestes barrières. Zaina Briet reconnaît que cette règle s'applique déjà dans certains services. Quand sur les deux médecins d'un petit service d'urgence, par exemple, l'un est en congé et l'autre est cas contact. Mais le phénomène, précise-t-elle, reste marginal et local. Pour l'instant.
On a effectué en France plus de 6 millions de tests la semaine dernière. On est à une moyenne quotidienne de près de 900 000 ces derniers jours, dont beaucoup d'autotests. Certaines pharmacies en manquent, mais pour l'instant, on n'en trouve nulle part ailleurs. Bonjour Laurent Kramer.
Bonjour.
La grande distribution demande à pouvoir en vendre.
Mais nous avons déjà les stocks, explique Michel-Édouard Leclerc, des autotests vendus en Suisse, en Belgique ou en Allemagne, chez Lidl ou Aldi, mais pas en France. Leur vente est autorisée aux seules pharmacies dans l'Hexagone, alors que nous pourrions tous, avec la grande distribution, fournir des millions d'autotests aux Français. Se désole Michel-Édouard Leclerc chez nos confrères de France Info.
Ça fait un an et demi, on a fait des pages de publicité. Intermarché vient d'en faire une aussi. Le PDG de Carrefour, Alexandre Bompard, a dit aussi qu'il était disponible. Bien sûr, c'est pas une question d'argent. Tout le monde a dit qu'on le vendrait à prix coûtant. Là, on a la possibilité d'avoir des autotests qui sont deux fois moins chers que les moins chers des pharmaciens. Ils sont pas loin, ils sont en Allemagne, ils sont en Suisse. Nous n'avons toujours pas le droit d'en vendre. La France est un pays corporatiste, ça fait 5 siècles que les potards, les pharmaciens, se coltent les épicemars, les épiciers. Et donc, les épiciers n'ont pas le droit de vendre des produits qui sont exclusifs en pharmacie.
Alors, vendre ces autotests à 2 euros pièce dans les supermarchés implique un feu vert du ministère de la Santé. La grande distribution attend une réponse à ce sujet. Le ministère vient de nous répondre. C'est toujours non du côté des autotests dans les supermarchés.
Les potards, et comment dit-il ?
Et les épicemars.
Et les épicemars.
Ça reste dans l'oreille.
Oui, je ne connaissais pas cela. On est donc à des centaines de milliers de tests quotidiens. 90 000 nouveaux cas en France et même un peu plus hier. Et ce n'est qu'un début à en croire le conseil scientifique. Le conseil présidé par Jean-François Delfraissy disait hier anticiper des centaines de milliers de cas quotidiens de Covid version Omicron à la rentrée. Et redouter une désorganisation sociale à cause de la multiplication des arrêts maladie. Les chiffres et les mots sont inquiétants, c'est le moins qu'on puisse dire. Et Maxence Lambrec, l'exécutif n'a pas apprécié cette couche de noir supplémentaire.
Dans les ministères, on risque bientôt de jouer aux fléchettes avec le portrait de Jean-François Delfraissy, qui une fois de plus fait l'unanimité contre lui. Faire paniquer les Français à la veille de Noël, mais quelle bonne idée, se dit un conseiller. Il est prêt à tout pour faire parler de lui, s'énerve un ami du président. Ce n'est pas son job, souligne un conseiller de Matignon. Le pays tiendra, on s'en préoccupe tous les jours. Chaque ministère a son plan de continuité d'activité. Côté fonction publique, par exemple, on se montre très serein. La vraie désorganisation, c'était en 2020. Maintenant, le télétravail est un acquis, il suffit de le redéployer. Et de toute façon, dès lundi, les règles d'isolement évolueront. Fini les 10 jours à la maison pour les cas contacts Omicron, testés négatifs et vaccinés. Une mesure draconienne, reconnaît le ministre de la Santé, parce qu'on ne connaissait pas sa dangerosité. Et d'ailleurs, il renvoie la balle au conseil scientifique, lui demandant ses recommandations en la matière. De quoi le remettre à sa place, se réjouit un macroniste. Le président et Jean-François Delfraissy ne passeront pas Noël ensemble.
Alors cela dit, de fait, déjà, des secteurs économiques doivent réduire la voilure. À l'étranger, tout d'abord aux États-Unis, la compagnie aérienne United annule 120 vols. Trop de personnel malade ou anticipation des baisses de réservations déjà, ça c'est l'allemande Lufthansa qui annule 10% de son programme hivernal. La nouvelle vague de Covid Omicron menace-t-elle la reprise économique? On en parle dans un instant avec l'économiste Marc Toiti. En Italie en tout cas, le plan de relance prévu de longue date a passé l'étape du Sénat. 32 milliards d'euros de mesures de relance, 8 milliards de baisses d'impôts. Et en France donc, quel impact cette nouvelle vague peut-elle avoir? Avant d'entendre Marc Toiti, réponse pour le secteur des artisans de Jean-Christophe Repon. Il préside la CAPEB, la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment.
C'était déjà tendu avant cette nouvelle vague et nous avions déjà du mal à fournir toute l'activité que nous demandent les Français sur justement rénover leur maison et mieux habiter. Et on avait toujours eu des difficultés avec le recrutement de main d'œuvre et également avec la hausse des matériaux et la pénurie. Mais là, les cas contacts, les cas positifs font qu'on perd de la main d'œuvre en plus. Et ça va devenir compliqué à fournir autant d'activités. Nous sommes, nous, à la CAPEB, plus de 58 000 adhérents et nous avons une moyenne de 3 salariés par entreprise. Mmh. Ce qui veut dire que dès que nous perdons un compagnon ou même nous-mêmes, moi qui suis, je peux témoigner, je suis positif également, donc ça veut dire que la production de moitié s'arrête. Ce qui veut dire aussi que si c'est le chef d'entreprise, c'est encore pire puisque c'est l'organisation de l'entreprise qui s'arrête.
Propos recueillis par nos confrères de France Info et vérifiés par ailleurs si vous devez prendre un train régional, là encore, effet Omicron, certains sont annulés ou remplacés par des bus. Bonjour Marc Toiti.
Bonjour.
Économiste, et on commence à s'interroger sur l'impact économique de cette vague version Omicron. Les secteurs potentiellement les plus impactés par un manque de main-d'œuvre à cause d'absence, cas contact ou malade, sont les secteurs évidemment riches en main-d'œuvre et les petites entreprises, j'imagine.
Oui, tout à fait. J'ai envie de dire que c'est vrai que ce Omicron, il tombe au pire moment. En fait, c'est surtout la psychose qui est autour de ce variant qui vient au pire moment, sachant que nous sommes déjà sur une situation où il y a des pénuries de main-d'œuvre dans justement beaucoup d'industries. C'est l'industrie qui souffre énormément, également les services sur l'hôtellerie. Alors bon, c'est sûr que s'il n'y a pas de touristes, etc., on aura moins besoin de main-d'œuvre. Ouais. Mais néanmoins, c'est vrai qu'il y aura une activité qui est déjà, je dirais, sur la corde raide. Si de nouveau il y a beaucoup effectivement d'arrêts maladie et autres, alors là, on risque effectivement un refroidissement de l'activité. Alors, ce qui est encore plus grave, c'est que, à la différence de 2020, par exemple, a priori, Omicron est quand même beaucoup moins grave qu'en 2020, oui. Et tant mieux, bien entendu. La nouveauté aujourd'hui, c'est qu'en plus, il y a de l'inflation. C'est-à-dire que l'inflation est élevée, et donc si jamais il y a des pénuries qui continuent d'augmenter, il va y avoir encore plus d'inflation demain. Donc c'est ça qui est extrêmement dangereux, et encore, le gros problème, c'est que les États, les banques centrales, ont déjà utilisé toutes leurs cartouches, c'est-à-dire pour relancer la machine. Donc vraiment, si nouveau blocage de l'économie, nouvelle récession, comment va-t-on faire pour relancer la machine? On est déjà tout utilisé. Donc c'est là effectivement le vrai danger aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut surtout ne pas tomber dans cette psychose. A priori, alors je suis pas un spécialiste en la matière, bien entendu, mais ça serait moins dangereux, entre guillemets, que les autres variants. Oui. Et donc c'est vrai qu'il faut aujourd'hui permettre aux Français de continuer de travailler malgré tout, de vivre avec, de reprendre les gestes barrières, parce que si de nouveau l'économie française repart à la baisse, ça pourrait être effectivement fatal pour plusieurs trimestres. Et ça,
Il y a un secteur, Marc Toiti, particulièrement crucial qui peut entraîner un blocage plus général.
Aujourd'hui, j'ai envie de dire que il y a beaucoup de secteurs, je dirais, notamment auprès de dans la santé, bien entendu, qui est tout à fait dangereux. Et parallèlement, on a sur les secteurs industriels également, enfin, l'automobile qui souffre énormément. Aérien, c'est vrai, le tourisme. Bon, on a Marc Toiti, mais comme il y a moins de touristes, ça serait moins dangereux.
Voilà. Une dernière question. La liaison est mauvaise. Oui. Est-ce que, en synthèse, là, vous avez peur pour la reprise économique qui était très forte en France ou assez forte en France?
Alors, la reprise économique était forte parce qu'il y avait une relance exceptionnelle. Il faut quand même pas l'oublier que oui. La dette publique française a été augmentée de 350 milliards d'euros. Donc, c'est évidemment des niveaux complètement records. Et donc, le danger, c'est que maintenant, on n'a plus les moyens de relancer encore la machine. Donc oui, je suis inquiet. Donc, espérons vraiment que ce variant ne sera pas si grave qu'on veut bien l'énoncer. Et surtout, que nos dirigeants ne prendront nouvelles mesures de restriction, de notre quotidien.
Merci Marc Toiti d'avoir pris quelques minutes pour répondre à nos questions. À propos de manque de main-d'œuvre, le secteur le plus concerné ces derniers mois, c'était l'hôtellerie-restauration. Affaire de salaire, notamment insuffisant, vu les horaires et la pénibilité, notamment au bas de l'échelle. Surtout, on en parlait à l'instant, quand l'inflation revient, 2,8% en novembre. Alors, vous le savez, dans une série de branches professionnelles, on négocie pour les salaires, le gouvernement pousse, le MEDEF admet qu'ils vont sans doute augmenter. Eh bien, Kathleen Comte, un accord a été trouvé dans l'hôtellerie-restauration.
Le patronat et la CFDT sont effectivement tombés d'accord cette semaine sur une nouvelle grille des salaires. Grâce à cet accord, le salaire minimum sera supérieur de 5% au SMIC. L'ensemble de la grille actuelle des salaires augmente également de 16% en moyenne. Pour mieux comprendre ce que ça représente, il faut savoir que dans ce secteur d'activité, il existe 5 niveaux de rémunération divisés en plusieurs échelons, allant des employés au cadre. Si on prend un exemple concret, un employé de niveau 1, échelon 1, gagne actuellement 10,48 euros brut de l'heure. Grâce à cet accord, il touchera au cours du premier trimestre 2022 11,01 euros, soit environ 50 centimes de plus. Dans un secteur qui manque cruellement de bras, est-ce que c'est suffisant pour attirer du monde? Réponse avec Stéphanie Dayan, secrétaire nationale à la CFDT des services.
Cette revalorisation ne résoudra pas toutes les problématiques que rencontrent les salariés. On sait que 70% des salariés de ce secteur étaient quand même sous-payés, mais c'est quand même une première partie qui est réussie. Ça encourage une dynamique, c'est quand même un premier pas dans ce secteur.
La CFDT a prévu de signer cet accord le 5 janvier. FO et la CGT ne s'y opposeront pas. Elles ont jusqu'au 17 janvier pour se joindre à la signature si elles le souhaitent.
Coup de la vie plus, réticence au vaccin en Guadeloupe. Les ingrédients de la crise qui a marqué le mois de novembre sont toujours là. Et la crise prend de nouveau un tour violent depuis hier. L'État ne négociera pas pour abroger une loi de la République votée au Parlement, fait savoir le gouvernement à propos de l'obligation vaccinale pour soignants et pompiers. Des manifestants anti-pass et opposés à l'obligation vaccinale ont passé la nuit au Conseil régional de Guadeloupe. Ils étaient 400 hier à faire irruption dans les locaux, 100 à s'installer dans l'hémicycle. Pression directe et physique sur les élus pour demander que l'État participe aux négociations. Ils estiment que ce n'est pas le cas pour l'instant. Les personnels de santé non vaccinés risquent la suspension le 31 décembre. La campagne d'Éric Zemmour, elle aussi, semble atteinte par un nouveau variant en ce mois de décembre. Tassement dans les sondages après la progression fulgurante de l'automne et succession de controverses. En cette fin de semaine d'abord, c'est le mécontentement du ministère des Armées après la visite d'Éric Zemmour au 43e bataillon d'infanterie de marine à Abidjan, Côte d'Ivoire. Comme tous les candidats, il a parfaitement le droit de rendre visite aux soldats. Mais cela doit se faire dans la plus grande discrétion, sans médias ni images, précise le porte-parole du ministère, pour éviter toute instrumentalisation politique de l'armée. Éric Zemmour a posté des images de sa visite. Autre controverse, les éléments s'accumulent. Les menaces, injures ou actions violentes attribuées ou revendiquées par ses partisans les plus radicaux. Élodie Forêt, la dernière action en date visait Marine Le Pen.
Oui, des dégradations de véhicules commises juste devant le domicile de la candidate avec des injures et une inscription pro-Zemmour tracée dans le givre. Marine Le Pen a déposé plainte contre X. Cette semaine, c'est aussi le domicile de l'écologiste Sandrine Rousseau qui a été visé avec des autocollants Éric Zemmour collés sur la façade. Il y a aussi eu cette vidéo où des partisans revendiqués du candidat s'entraînent au tir et imaginent prendre pour cible Emmanuel Macron, l'insoumis Alexis Corbière et l'ex-porte-parole de LFI Raquel Garrido. Des images choquantes que le candidat a dénoncées dans un communiqué s'adressant aux ultras. Vous ne faites pas partie ni de mes sympathisants ni de mes militants. Je condamne par avance tout ce que vous ferez en mon nom. Le staff d'Éric Zemmour nous dit aussi avoir regardé de près dans ses équipes militantes si des gens pouvaient être impliqués. Ça n'est pas le cas, promet un proche du candidat. Éric Zemmour qui judiciairement ne risque rien, n'ayant pas appelé à ces violences ou dégradations. Politiquement, la question peut se poser. Quel impact sur les électeurs? Pas d'inquiétude, répond l'entourage. Ils savent faire la différence.
La campagne électorale aujourd'hui, c'est aussi Valérie Pécresse sur les terres de Jacques Chirac. La candidate de droite est à Ussel, en Corrèze. Et puis un climat pour les élus et hommes politiques et hommes et femmes politiques locaux. Deux adjointes au maire de la ville de Saint-Pierre-des-Corps, en Indre-et-Loire, près de Tours, ont été visées par des incendies criminels, leurs biens en tout cas, dans la nuit de jeudi à vendredi. On parlait de la Guadeloupe à l'instant. La manifestation et l'occupation des locaux du Conseil régional continue, s'il le faut, disent les manifestants. On passera Noël ici, au-delà de la Guadeloupe, à propos des Outre-mer. Tous les passagers qui se rendent dans les Outre-mer depuis la métropole ou l'étranger devront bientôt présenter à l'embarquement un test négatif, PCR ou antigénique de moins de 24 heures. L'obligation entre en vigueur mardi prochain. Allez, Covid plus climat tendu, mais non, on ne va pas se faire piquer Noël jusqu'au bout.
France Inter, le 13-14, Bruno Duvy.
Bonjour Stéphane Capron.
Bonjour Bruno.
Quand vous êtes là, c'est qu'il y a de bons et beaux spectacles en perspective. Alors période oblige, on précise qu'à ce stade, tous ceux dont vous allez nous parler
ce matin
sont maintenus jusqu'à nouvel ordre. Des spectacles tout public, très musicaux, Tour de France avec vous, Marseille d'abord. Ah ça c'est parfait pour Noël, Offenbach, le roi de l'opérette.
Oui, pour une offre qui n'est pas sa plus connue, c'est Le Voyage dans la Lune. C'est un opéra féerie inspiré de Jules Verne avec à sa création en 1875 un vrai succès à la Gaîté. Le public avait été conquis par l'impressionnante machinerie, 24 décors différents. Et pour raconter cette histoire vers la Lune en 30 tableaux, le metteur en scène Olivier Friedrich, lui, utilise beaucoup la vidéo.
Le Voyage dans la Lune, Offenbach, on entend quelques notes sous nos voix. C'est à partir de ce dimanche, c'est jusqu'au 4 janvier à l'Opéra de Marseille. On fait vivre un peu la musique et on va passer dans cette même région à Toulon.
Et là, dès les premières notes, vous allez reconnaître le compositeur, Bruno. Nous dansons.
Zim, boum, boum, zim, boum, boum, Johann Strauss.
Johann Strauss, il s'agit de la Chauve-souris. C'est sa troisième opérette. Ici, le metteur en scène Jean Lacornerie s'inspire de la pantomime, des ombres chinoises, du théâtre de marionnettes dans une forme entre le cabaret et la comédie musicale.
Marseille et donc Toulon, la Chauve-souris de Strauss à l'Opéra de Toulon à partir de dimanche, là aussi, et jusqu'au 31 décembre. Reste en Autriche, un autre grand compositeur un peu connu, hein, avant Strauss, c'est Mozart.
Avec une flûte enchantée.
Ah.
Version BD manga.
Ça alors.
Je l'ai vu. C'est bon. Au théâtre du Capitole. C'est sur scène. C'est assez drôle, vraiment. Il y a des coursiers à vélo. Il y a une station service. Il y a Papageno qui arrive du ciel en deltaplane. C'est une flûte revisitée pour un public familial dans une version qui est vraiment didactique. Car pour la rendre plus facile d'accès, notamment aux enfants, le metteur en scène Pierre Rigal a choisi de traduire tous les récitatifs en français.
La flûte enchantée Mozart jusqu'au 30 décembre, théâtre du Capitole à Toulouse. Allez, on change de continent avec de la danse. On part en Afrique du Sud.
À la rencontre du chorégraphe Grégory Makoma. C'est la première collaboration de cette icône sud-africaine avec le ballet de l'Opéra de Lyon. Le spectacle s'appelle The Valley of Human Sound. Grégory Makoma est né à Soweto dans un township. Il est passé par l'école belge d'Anne-Thérèse de Kersmaker. Au centre de sa chorégraphie, il y a 5 femmes, 4 danseuses, une chanteuse qui sont tour à tour des mères, des sorcières, des sœurs et des guerrières.
The Valley of Human Sound au théâtre de la Croix-Rousse jusqu'au 30 décembre. J'aime beaucoup ce qu'on entend là derrière. Allez, on termine le Tour de France dans l'Ouest. Rennes, la Dame Blanche, Stéphane.
Alors là, c'est une œuvre de François-André Boieldieu. Ça a été un des grands succès du 19e siècle français. On est entre l'opéra comique et l'opéra romantique. Ça a même inspiré Hergé pour sa bande dessinée Le Trésor de Rackham le Rouge. La metteuse en scène Louise Vigneault transpose l'œuvre dans un monde animalier et l'opéra est joué sur des instruments d'époque par le formidable orchestre Les Siècles.
Allez, on écoute. La Dame Blanche à l'Opéra de Rennes jusqu'au 28 décembre, du 28 décembre jusqu'au 2 janvier. Je vais y arriver, nous sommes passés par Toulouse, Toulon, Marseille, Lyon et Rennes. Il n'y a pas que Paris dans la vie. Merci beaucoup, beaucoup Stéphane Capron. Alors voilà pour les grands et pour les petits. Quelle commande au monsieur barbu habillé en rouge? Toi, tu veux quoi pour Noël? Au micro de Léa Giraudeau, France Bleu Pays de Savoie, voici quelques demandes parfaitement légitime qui émane de petits savoyards.
J'ai commandé des jeux Switch, deux jeux de société.
Je voulais me faire percer les oreilles.
Des Lego Mario, une cuisine.
Des affaires de foot,
Des jeux de société.
Un circuit de billes.
Et aller à Disney par exemple.
Ah ben voilà, nous avons pris bonne note de tout cela. Et maintenant, on va voir à l'autre bout de la chaîne, direction un grand magasin du boulevard des Italiens à Paris. C'est l'heure des retardataires, de ceux qui manquent d'idées. La solution, choisir un classique pour être sûr de ne pas se tromper. Reportage Lucie Amadieu.
Un peu perdu au milieu des rayons, son téléphone portable entre les mains, Colline tente de trouver les derniers cadeaux de sa liste.
C'est classique, Playmobil, Barbie... Mais on est has-been parce qu'il y a des nouvelles collections qui n'existaient pas à l'époque. Il y avait un rayon, pas 50 quoi.
Dans ce magasin, il y a 35 000 références. Les plus recherchées sont celles en lien avec l'univers d'Harry Potter et de Pokémon.
C'est le dernier, je crois.
Ah bah on peut pas mieux faire, ça vous attendez.
Ok, bah c'était sur la liste.
Bon bah nickel.
Romain, conseiller vendeur, voit de plus en plus de clients à la recherche de valeurs sûres.
Ça a marqué des générations et c'est vrai que des fois, quand on n'a pas trop d'idées pour notamment les plus jeunes, bah on revient vers des trucs qu'on connaît. Et ce qu'on connaît, bah c'est Pokémon qui a fêté les 25 ans. Donc c'est pour ça que ça marche aussi. Et puis ça fait ses preuves. Hein.
Cette année encore, les jeux de société ont beaucoup de succès. La pandémie de Covid-19 et ses restrictions ont contribué à l'engouement, explique Franck Maté, le porte-parole de Jouet Club.
Là, il y a des nouvelles mesures sanitaires. Les discothèques fermées, on va pouvoir faire la fête. Donc du coup, il faut s'occuper. Et grâce aux jeux, eh bien, on peut arriver à cela.
Et pour ce Noël, il y a de grandes chances qu'un jeu de société soit sous votre sapin. Cette année, il représente une vente sur 5 chez ce géant du jouet.
Reportage Lucie Amadieu. Le cadeau pour certaines communes, ce sera notre dernier éclairage avant la météo et notre invité. Eh bien, pour certaines communes, ça peut être d'obtenir la déco de Noël dans les rues. Sans gréver le budget qui est maigrelet, nous allons à Moulins sous Touvent dans l'Oise. Là, c'est un reportage de Marion Ferrer.
À l'entrée du village, la grande guirlande Joyeuse Fête s'illumine chaque soir.
Rien que pour vous dire, voyez, ça, on l'a fait nous-mêmes.
Ça n'a l'air de rien, c'est pourtant une véritable fierté pour les élus qui l'ont récupéré dans une commune voisine.
J'ai tout de suite sauté sur l'occasion et j'ai dit « Oh non, faut pas les jeter ».
Anne Brockweg est la maire de Moulins-sous-Touvent, 220 habitants et 30 000 euros de budget municipal par an.
Comme on est une collectivité, il faut forcément qu'elle soit aux normes et donc on ne peut pas se permettre d'aller dans le supermarché du coin pour prendre une guirlande. Lambda. Donc il faut vraiment minimum 300 euros et ça représente un budget énorme.
Les 10 élus se sont donc mobilisés, aidés par quelques habitants. Au pied de l'église, le grand sapin lumineux est désormais accompagné d'un traîneau, de petits cerfs scintillants, de décorations réalisées à la main. Alexandre et Gilles ont trié et installé une dizaine de guirlandes.
Des mains en or, je sais pas, mais j'ai des belles mains, quoi. Je sais m'en servir. Il a fallu quand même comprendre le système, pas faire d'erreur, surtout sur le courant, tout ça, faut pas qu'il y ait de court-circuit. Faire plaisir, c'est ce qui est le plus génial.
Et ça fait chaud au cœur, quoi, de voir les gens venir regarder, même si c'est pas le grand féerie comme dans certains endroits, ça fait toujours plaisir de pouvoir contribuer.
Les enfants du village ont aussi écrit une lettre au Père Noël. Ils recevront chacun une réponse personnalisée dans les jours à venir.
Et il nous reste à voir dans un instant le temps de ce 24 décembre.
La protection apportée par le vaccin contre le Covid-19 diminue après un certain temps. Il est donc important de faire une dose de rappel pour continuer à se protéger et à protéger les autres. Quand faire sa dose de rappel? Dès 4 mois après la dernière injection ou infection Covid pour toutes les personnes de 18 ans et plus. N'attendez pas. Prenez rendez-vous chez un professionnel de santé près de chez vous ou sur www.sante.fr. Tous vaccinés, tous protégés. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.
Tu sais comment un vrai connaisseur comme moi choisit un foie gras?
Bah tu regardes s'il est du Sud-Ouest.
Ah, tu es connaisseur toi aussi?
IGP Canard à foie gras du Sud-Ouest, Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy. Campagne réalisée avec le soutien financier de l'Union Européenne et de la région Nouvelle-Aquitaine.
Le temps de ce jour.
La météo avec les poulets de Loué. Régalez-vous d'un savoureux poulet fermier de Loué, élevé en liberté. Loué, libre par nature.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
La météo de ce 24 décembre est douce et humide.
Oui, avec beaucoup de nuages sur la plupart des régions. De nouvelles pluies qui arrivent sur la Bretagne et la Basse-Normandie avec un vent de sud. On en a d'autres qui s'attardent vers la Lorraine, l'Alsace et la Franche-Comté. Au nord de la Seine, en région parisienne, sur le nord du centre-val de Loire et la Bourgogne, là c'est souvent bien gris. Sur la Corse, la région PACA et la Basse-Vallée du Rhône, là aussi beaucoup de nuages et un petit peu de pluie. On trouve des éclaircies vers le sud-ouest jusqu'aux Charentes, au Berry, à l'ouest du Massif central, sur l'est de la Corse également. On a une ambiance douce, 7 degrés à Grenoble, 8 à Amiens, à Nancy. Nancy, 10 à Paris, 11 degrés à Rennes et Angers, 13 à Limoges, à Lyon, 14 à Toulouse et à Marseille, 16 pour Bordeaux, pour Ajaccio, on ira jusqu'à 18 à Biarritz. Et puis cette nuit de Noël sera également douce, parfois humide, pas de quoi décourager le Père Noël, je vous rassure. Et la journée de demain sera un petit peu dans la même lignée.
Élodie Calac, Météo France, il est 13h30.
France Inter, le 13-14, Bruno Duvic.
Le catholicisme a-t-il encore de l'avenir en France? Question à quelques heures du réveillon de Noël, et c'est le titre d'un livre paru cet automne aux éditions du Seuil. Bonjour Guillaume Cuchet.
Bonjour.
Vous êtes historien, auteur il y a 3 ans d'un autre ouvrage, Comment notre monde a cessé d'être chrétien. Vous poursuivez la réflexion. Ce qui l'a nourri cette année, c'est d'abord, et là ce n'est pas nouveau, le constat connu de baisse radicale de la pratique. La messe le dimanche par exemple, 1/4 des Français y assistaient dans les années 60, 2% aujourd'hui. Cette année en plus, il y a le rapport Sauvé, 330 000 victimes de violences sexuelles au sein de l'Église depuis les années 50. Quels enseignements les catholiques les plus fidèles et les plus distants en tirent-ils dans leur rapport à la religion et à l'Église? On pourrait ajouter la démission de l'archevêque de Paris qui révèle des tensions dans la communauté catholique à Paris. Alors les auditeurs de France Inter peuvent dialoguer avec vous, Guillaume Cuchet, 01 45 24 7000 et l'appli France Inter, rubrique Réagir. Avant de vous entendre, une fois n'est pas coutume, nous allons diffuser notre feuilleton avec quelques minutes d'avance parce que il illustre en partie tout ce qu'on a à se dire. Depuis lundi, Jérôme Cadet passe la semaine avec un prêtre, Stéphane Lesson, qui exerce à Saint-Renan dans le Nord Finistère. Vu le manque de vocation dans l'église, il va bien au-delà de cette commune. 24 communes, 25 clochers, 2 îles, Molène et Ouessant. Et dans cet épisode, il est évidemment question de la préparation de Noël et des kilomètres que le prêtre avale en voiture chaque semaine.
Je t'emmène voir la mère d'Iroise, hein, parce que ça fait partie de la paroisse. Ça va nous conduire vers Port-Spaudère et puis après on ira sur Le Conquet. Partie de mes communautés chrétiennes, même s'il faudrait quasiment plus d'une semaine pour découvrir tout ce qui fait la paroisse, quoi, ou les lieux de la paroisse. Je suis curé de Ouessant, qui va parler à beaucoup, de Molène et de Ouessant, curé des îles.
Et attention, c'est orange.
Oui. Alors oui, mais j'ai des anges gardiens qui veillent sur la voiture. Hein. J'ai tous mes points encore, des fois je me demande comment, mais j'ai tous mes points. À une période de ma vie, ça fait 20 ans que je suis prêtre, j'ai pu aller jusqu'à 60 000 km par an. C'est la résidence secondaire, quasiment. Des fois, ça tend même à devenir presque la résidence principale, d'aller d'un lieu à un autre, etc. Et non, j'ai besoin de la voiture. Ça, je peux pas faire sans voiture, c'est pas possible.
Tu vois Molène en face.
Ah oui, c'est l'île de Molène. Nous sommes dans le centre du Conquet.
Ouais, on va à l'église qui est assez grande. J'espère que c'est ouvert.
T'as un certain dépouillement, même si on voit que c'est Noël hein, qui approche, parce qu'on se prépare à célébrer Noël. Bon, ben, la crèche et quelques éléments de la crèche sont en place. Je trouve que c'est important d'avoir tout ça et qui signale que Noël est désormais à portée de main, quoi. C'est une sacrée fête, hein, Noël. C'est pas une gentille fête. Youpi, le Père Noël et les cadeaux, il y a de ça, mais c'est infiniment autre chose, quoi. C'est la venue.
C'est quand même surtout ça, quand même, pour les gens aujourd'hui, Noël, non? C'est pas d'abord la consommation?
Peut-être pour eux, mais pour moi, non. Moi, je crois que Noël reste, même si c'est la consommation ou si c'est la fête, Noël reste marqué au cœur des gens comme quelque chose d'important. Alors, j'espère qu'il le lit encore à la naissance de Jésus, mais... Pour moi, Jésus qui vient dans ce monde se faire tout petit pour éviter qu'on ait peur de Dieu, moi, ça me met à genoux. Alors bien sûr, il y a la fête autour, etc. Et très bien, très bien. Moi, j'ai pas envie de jouer les prophètes de malheur et dire « Ah ben non, faut pas faire la fête ». La joie de Noël est importante et il faut la vivre. Et il faut la vivre d'autant plus qu'on en a besoin dans des périodes qui sont un peu angoissantes et troublées à cause de ce virus qui nous est tombé dessus. À cause d'une vie qui est pas simple, etc. Moi, j'ai dit à mes équipes liturgiques, à Noël, certes, on a beaucoup de jours de l'année pour parler de ce qui va pas, mais à Noël, on va parler de ce qui va. Il y a des gens qui viennent à l'église une fois par an, et c'est le soir de Noël. Eh ben, on doit se faire le plus accueillant possible. Il y a des raisons diverses qui font que peut-être ces gens ne viennent plus à l'église, mais ce soir-là, ils viennent. Et alors nous, notre premier rôle et notre seul rôle, c'est de pouvoir les accueillir et de leur dire ben, bienvenue ici, qui que vous soyez. Et puis on va célébrer ensemble, quoi. Et je trouve qu'il y a une certaine chaleur dans cette messe de Noël qu'on trouve peut-être pas ailleurs, qui fait qu'on a l'impression d'être plus en lien les uns avec les autres. Noël, c'est la... On est au solstice, hein, et c'est le jour qui commence à prendre le pas sur la nuit. Alors pour moi, qui suis chrétien, ben, Jésus prend le pas sur la nuit de nos vies, quoi. Et donc, du coup, la fête de Noël vient dire cela. On va vers le printemps, on va vers l'été, et peut-être ben, un avenir meilleur aussi. On peut se souhaiter ça. On a le droit de se souhaiter ça à Noël.
Voilà pour ce dernier épisode du Feuilleton. Vous retrouvez tous les autres sur franceinter.fr et les plateformes de podcast Une semaine dans leur vie. Guillaume Cuchet, comme promis, on vous retrouve, historien, auteur de ce livre « Le catholicisme a-t-il encore de l'avenir en France ?» aux éditions du Seuil. Qu'est-ce qui se joue, au fond, dans ce moment de Noël, ce soir ou demain, où des fidèles qui ne viennent pas souvent et d'autres qui viennent tous les dimanches vont se croiser ?
Alors c'est assez classique dans l'histoire du catholicisme, il y a toujours eu plusieurs régimes de pratiques. Il y a ceux qui effectivement vont à la messe tous les dimanches et qui sont désormais une petite minorité dans ce pays, mais il y a quand même un nombre assez substantiel de Français qui profitent des grandes fêtes du calendrier liturgique pour avoir une pratique qui est plus occasionnelle, mais qui n'est pas vécue par eux comme, je dirais, comme une sous-pratique, qui est vécue comme une pratique à part entière. Ouais. Et donc il y a effectivement un jour où se rencontre le noyau dur, si je puis dire, et puis les pratiquants plus occasionnels, les pratiquants plus festifs.
Et ça peut être un moment de retour à la religion et pour l'Église, un moment voilà, de rétablir un contact avec des gens qui sont éloignés.
En tout cas, c'est effectivement un moment où le noyau dur entre en contact, ouais, avec ceux qui ont une pratique plus intermittente. Et donc, il y a effectivement quelque chose à nouer, même si je pense que le clergé ne se fait pas beaucoup d'illusions. C'est-à-dire que beaucoup de Français ont des habitudes de pratique intermittente. Et ils ne vont pas changer de système pour autant, ouais, mais ce lien un peu intermittent est important parce que ça fait partie, au fond, des structures de la vie religieuse de beaucoup de Français encore aujourd'hui.
Alors, redisons les chiffres. La pratique dominicale de la messe, hein, je le disais tout à l'heure, un quart des Français dans les années 62% aujourd'hui. Et autre détail, autre chiffre important, seulement un jeune sur 4 ou 5 aujourd'hui se dit catholique.
Oui, oui, les chiffres sont pas bons. Les statistiques depuis 50 ou 60 ans sont très dégringolantes. Ça inquiète évidemment beaucoup le clergé et en particulier la jeune génération. Effectivement, on voit bien que parmi les jeunes Français, il y a de plus en plus de gens qui sont, je dirais même pas des décrocheurs, mais qui sont des décrochés en ce sens qu'ils n'ont pas toujours reçu d'éducation religieuse très régulière. Donc, au fond, leur rapport au catholicisme est de plus en plus lointain. Et on constate dans les statistiques qu'il y a maintenant effectivement peut-être 20 ou 25% de Français seulement, de jeunes Français qui se considèrent comme catholiques, qui se déclarent comme tels, alors que ce taux était peut-être à 90% ou à 95% au début des années 60. Donc vous voyez là, on est dans une rupture culturelle très profonde et les jeunes d'aujourd'hui représentent la deuxième génération du décrochage, parfois la troisième génération, ouais, du décrochage. Donc,
c'est pas des décrocheurs, c'est des décrochés.
C'est pas des décrochés parce qu'ils n'ont pas été accrochés, donc ils sont nés souvent en dehors, ils n'ont pas trouvé le catholicisme dans leur berceau, ou alors ils n'en ont trouvé que des restes un petit peu moribonds. Et donc, à la fois, ils ont un rapport plus libre, en un sens, que leurs prédécesseurs au catholicisme, la possibilité d'y aller sans tradition, en quelque sorte, mais aussi une distance qui est très, très forte, une ignorance aussi très forte, hein, à l'égard de cette religion qui est, à laquelle étaient initiés leurs grands-parents, en quelque sorte, et c'est moins vrai pour eux.
Alors, restons sur les jeunes, et parlons des nonnes, ceux qui se disent sans religion, non-religion, parmi les 16-29 ans, 64%, que mettent-ils derrière cette expression sans religion?
Ben, c'est des gens, techniquement, les sociologues disent qu'ils sont non affiliés. C'est-à-dire, si on leur demande est-ce que vous vous reconnaissez un lien de filiation avec une église ou avec un culte, ils disent non, aucun. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ne sont pas croyants. Ouais. Il y a évidemment toutes les positions philosophique possible derrière, depuis un athéisme résolu jusqu'à une quête spirituelle très, éventuellement très intense, très fervente, mais qui ne se traduit pas par une affiliation. Donc il y a une gamme de positions spirituelles, philosophiques très nombreuses, et je pense que ça, c'est vraiment un aspect central du nouveau paysage spirituel, c'est-à-dire qu'on a affaire à des gens qui, évidemment, la quête spirituelle n'a pas disparu parmi nous, elle continue de le besoin de sens, de consolation, de ritualisation continue de s'exprimer.
On le voit dans les rayons des librairies. On le voit dans les rayons des librairies, notamment ce besoin de sens.
Ah, il y a une littérature gigantesque, ça va du développement personnel à l'ésotérisme, en passant par toutes sortes de quêtes spirituelles. Donc, nos contemporains achètent beaucoup de livres dans ce domaine, s'intéressent à beaucoup de sujets, les expériences de mort imminente, le bouddhisme, le néo-bouddhisme. Il y a vraiment une quête profuse qui est le signe de cette quête spirituelle hors piste, finalement.
Et un défi pour l'Église, c'est de savoir s'adresser à ces gens-là.
Alors voilà, il faut tenir compte de la situation, c'est-à-dire le fait que bien souvent l'héritage est mince, voire nul, l'interrogation forte, mais il faut pouvoir ménager des transitions, au fond, pour initier au christianisme, sachant que l'initiation ne se fait plus dans les familles. Donc c'est un défi, a fortiori pour un clergé qui est de moins en moins nombreux, comme on l'a vu dans votre reportage, qui est obligé de faire des kilomètres en voiture pour maintenir un maillage minimal d'encadrement du territoire. Ça, c'est maintenant l'unité de base, c'est le chef-lieu d'arrondissement, ou presque, ou chef-lieu de canton. Donc ces quelques prêtres subsistants sont très sollicités, mais il faut arriver à trouver effectivement le moyen. Et ces fêtes, ces grandes fêtes qui continuent de mobiliser pas mal de monde, peuvent être l'occasion de tenir un discours à destination de ce public plus éloigné.
Allez, Guillaume Cuchet, question pour vous au standard. Question de Gérard qui nous appelle de Strasbourg. Bonjour Gérard.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Oui, voilà. Je pense qu'il faut distinguer entre le troupeau de catholiques, tu es mon berger, rien ne saurait me manquer, et puis le catholique qui pense théologiquement sa religion, et de réfléchir à un post-catholicisme un peu comme après Lacan, il existe un post-freudisme. C'est pour ça que j'en appelle, et je pense que c'est urgent, à la convocation d'un nouveau concile après Vatican III, qui a été un événement considérable.
Vatican II.
Vatican II, il faudrait Vatican III. Il me semble que c'est tout à fait nécessaire, tout à fait urgent. Voilà.
Merci pour votre question. Guillaume Cuchet, est-ce que ça fait partie des choses en réflexion au sein de l'Église? Alors, concile, on parle pas que de l'Église de France, hein, ça se passe bien au-delà, mais est-ce que ça fait partie des éléments en réflexion?
Je ne sais pas s'il y a un Vatican III en préparation dans les tubes. Vous savez que c'est Vatican II, déjà, il y avait 2500 évêques. Oui. Aujourd'hui, il y en aurait beaucoup plus encore. C'est des opérations, y compris logistiques, absolument considérables. On en est encore, d'une certaine façon, à la réception de Vatican II. Donc, je ne suis pas certain que les autorités romaines s'apprêtent à lancer un Vatican III. En revanche, il y a effectivement une réflexion en cours avec des nouvelles formes dites synodales qui l'encadrent. Avec, je crois que ce monsieur a raison, c'est-à-dire que devant des statistiques un peu dégringolantes, il y a un moment, il faut s'interroger sur les fondamentaux même de la religion, et donc s'interroger sur le niveau de transaction nécessaire avec la modernité, comment faire cette transaction, jusqu'à quel point la faire, faut-il la faire? Bon, il y a toutes sortes de questions évidemment décisives que les chrétiens qui pensent, ils sont tous plus ou moins pensants quand même, peut-être penser, mais en fait, ils sont plus ou moins actifs dans ce domaine, ont des questions à se poser, a fortiori dans le contexte qui est l'autre, la crise des abus sexuels dans l'Église, le Covid qui fusille un peu la pratique des personnes âgées. Donc il y a une conjoncture qui est très difficile, mais il y a aussi des données de fond, des problèmes de fond, qui, je l'espère, sont posés, je n'en suis pas absolument sûr, mais qui mériteraient de l'être.
Alors ça amène deux questions. L'impact du rapport Sauvé, selon vous, quel peut-il être? Est-ce que c'est auprès des fidèles qui, justement, sont des fidèles, disons, un peu lointains, que cela peut encore plus s'éloigner? Quel impact peut-il avoir?
Ce rapport Sauvé, c'est cette crise des abus sexuels dans l'Église, c'est une crise universelle, elle se produit dans des églises qui sont dans des situations très variables. Vous voyez, quand ça éclate en Pologne, ça éclate au sommet des courbes, et ça peut déclencher la crise sociologique. Quand ça éclate en Irlande, ça éclate à mi-côte, en quelque sorte, ça peut amplifier la crise sociologique. Et quand chez nous, ça éclate en bas des courbes, ça pourrait achever, en quelque sorte, le catholicisme. Donc, je crois vraiment que l'Église de France a fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire cette opération vérité qui est absolument nécessaire, parce que effectivement c'est très meurtrier, en ce sens que beaucoup de Français parmi nous n'ont plus de contact avec l'Église ni avec le clergé. Autrefois, les gens avaient facilement un oncle curé, une tante religieuse. Ils avaient une connaissance de l'intérieur de l'institution familière qui a largement disparu pour beaucoup de Français, de sorte que ce qu'ils savent de l'Église ou de l'institution leur vient de l'extérieur, pour une bonne part. Et ce déballage terrifiant sur cette crise des abus sexuels ne peut évidemment que les conforter d'une certaine façon dans l'idée qu'ils ont bien fait de prendre leur distance. Donc là, il y a vraiment une situation difficile. Je crois que l'Église essaie de faire face courageusement, mais c'est très nécessaire, parce que vous pensez bien que la troisième génération du décrochage n'aura aucune envie de revenir dans une institution qui se présente sous ces auspices-là. Donc là, il y a vraiment des choses à faire.
Question d'Elisa au standard. Bonjour Elisa.
Oui, bonjour à tous.
Merci
rapidement
d'avoir attendu.
Les actions de l'Église auprès des réfugiés ramènent-elles des fidèles? Je pense au père de Mester, 74 ans, qui a fait une grève de la faim dans l'église de Calais pour que cessent les expulsions. Il dort dans une tente dans la boue avec les réfugiés. C'était votre émission L'Heure Bleue d'hier soir. L'association jésuite des réfugiés JRS, la CIMAD, l'appel du pape en Grèce qui dit « Ne fuyons pas trop vite les images crues des corps gisant sur les plages » et qui remercie les bénévoles. Il a ramené 50 réfugiés à Rome. Enfin, est-ce que ça ne redonne pas une image de l'Église? Voilà.
Merci pour la question. Guillaume Cuchet.
Ouais. Bien sûr, l'Église est très engagée dans toutes sortes d'associations, notamment d'associations qui s'occupent de migrants. Il y a une action de fond dans ce domaine, même si la CIMAD, c'est plutôt d'origine protestante. Mmh. Tous ces gens-là travaillent ensemble. Donc ça fait partie, je dirais, là, des tâches de l'Église. Et certainement que ça a un effet positif. Ça rappelle aussi ça, c'est que le christianisme, ça engendre beaucoup d'altruisme, d'engagement altruiste et de service qui tient dans la durée. C'est des choses, il y a une vie associative très, très active en France, mais ces associations religieuses sont très présentes dans toutes sortes de domaines, et j'allais dire c'est le jour où elles auront disparu, si elles doivent disparaître, qu'on s'apercevra de tout ce qu'elles font. Donc c'est effectivement des secteurs dans lesquels les églises d'une manière générale sont très engagées. Le but n'est pas de ramener les fidèles, mais en tout cas de prouver la pertinence et la bonté de l'évangile organisé dans la société contemporaine.
Il nous reste une poignée de minutes, Guillaume Cuchet. J'ai encore deux questions, il y en aurait beaucoup, mais je voudrais insister sur un point de votre livre. Parmi ce qui nous rattache vraiment à la tradition catholique, c'est la mort. C'est-à-dire qu'une part de la réponse à la question de votre livre dépend de l'attitude des baby-boomers, cette génération qui a incarné le décrochage vis-à-vis du catholicisme, qui vieillit. Qui devra répondre à la question « Comment je veux mourir ?» 70% des défunts encore sont enterrés avec des obsèques religieuses. Comment est-ce que les baby-boomers choisissent de mourir? C'est une question clé pour l'avenir du catholicisme en France, en quelque sorte.
Oui, parce que c'est une génération qui a encore... Alors le baby-boom, si on l'entend très largement, c'est ceux qui sont nés entre 45 et 65, mais plus étroitement 45, 53, 54. C'est des gens qui ont été formés encore dans le monde d'avant les années 60-70, qui ont souvent été socialisés dans le catholicisme, qui ont reçu une éducation religieuse et puis qui ont décroché, qui ont pris leur distance, et leurs enfants ou leurs petits-enfants sont plus loin encore. Alors c'est une destination, c'est une génération importante pour le destin du catholicisme français qui arrive en âge de vieillir et de mourir. Et vous le signalez, il y a encore beaucoup d'obsèques religieuses dans ce pays. C'est le dernier indice de la sociologie qui a tenu. Ça tient en partie au fait que la mort, précisément, c'est la dernière chose qu'on lâche. C'est-à-dire que d'une certaine façon, la religion est née de ça. Et quand on la quitte, on en termine par ça. Donc je pense qu'il y a un aspect anthropologique en quelque sorte. Il y a aussi le fait que justement, les gens qui meurent aujourd'hui sont nés dans les années 30, 40, ou 20, c'est des gens qui ont reçu reçu une éducation religieuse, ils ont commencé leur existence en passant par les murs d'une église pour être baptisés, et ils la terminent en repassant par une église. La question, c'est est-ce que quand viendront en âge de vieillir et de mourir les générations suivantes, d'après le décrochage, est-ce que ces taux à 70% vont subsister, ou est-ce qu'ils iront rejoindre les autres taux de mariage, de communion, de baptême qui se sont effondrés dans les 60 dernières années. J'ai tendance à penser qu'il y aura un certain maintien lié à la mort, mais qu'il y aura quand même un alignement statistique, parce que le catholicisme français va en quelque sorte voir disparaître la dernière génération socialisée massivement en son sein.
Merci.
Donc ça finira par s'aligner.
Merci. Merci Guillaume Cuchet. Le catholicisme a-t-il encore de l'avenir en France? C'est publié au Seuil. Et vous terminez par un plaidoyer pour le catholicisme culturel, dont on trouvera peut-être une illustration dans la chronique à venir. Bonjour Anna Sigalevitch.
Bonjour Bruno.
Illustration donc de ce catholicisme culturel. Peut-être avec vous, la vie serait moins belle sans. Vous nous parlez de musique classique. Vos invités vous parlent et nous parlent de musique classique. Aujourd'hui, un écrivain.
Oui, absolument. Régis Geoffrey, pour lui, la vie serait moins belle sans... Bonjour Régis Geoffrey.
Bonjour Anna Sigalevitch.
Qu'est-ce qu'on entend ?
On entend du chant grégorien. Le chant grégorien, je l'écoute à la tombée de la nuit, toujours. Et c'est quelque chose qui me met dans un état de grande sérénité, même quand c'est l'office des morts. J'avoue que je ne fais pas de grande différence entre les morceaux, les matines de Noël, l'office de Pâques, l'office des défunts.
Là, c'est les matines de Noël qu'on écoute.
Ce qui me bouleverse dans le chant grégorien, c'est que pour moi, c'est un chant qui vient du fin fond du Moyen-Âge. Et les moines de l'abbaye Solène, j'ai l'impression qu'ils sont situés extrêmement loin, que c'est comme s'ils chantaient depuis le 10e siècle, le 8e siècle. Et c'est une espèce de chant qui est continu à travers le temps. Et c'est ça que je trouve bouleversant, tous ces moines qui chantent peut-être pour un dieu qui n'existe pas, mais qui en fait, ils arrivent à créer par ce chant.
Alors c'est justement par ces moines que vous avez choisi de nous faire entendre ces chants grégoriens, les moines de l'abbaye Saint-Pierre de Solesmes. C'est ça qui vous touche, c'est le fait que ce soit ces hommes-là qui chantent cette musique-là, Régis Geoffrey.
C'est-à-dire que par des chanteurs, ça ne me touche pas. Là, ce qui m'intéresse, c'est cette espèce, c'est comme si c'était un soupir qui monte. C'est même pas un chant, c'est quelque chose qui vient... On dirait que c'est un chant qui se passe, et c'est pas vrai, mais comme si c'était un chant qui se passait de l'art du chant, de la technique du chant.
Dans ces chants grégoriens qu'on écoute, c'est vraiment le dépouillement total, la pureté, c'est juste vraiment une façon de s'exprimer pour s'adresser à Dieu. Est-ce que la spiritualité compte dans votre amour de ces chants, Régis Geoffrey ?
C'est une des plus belles choses que je connaisse, y compris dans l'intention de ceux qui chantent, parce que se dégage une foi, une conviction, et ils font corps avec ce chant dans la mesure où il n'y a aucune distance chez eux, parce que c'est leur foi, c'est leur vie, c'est les gens qui chantent tous les jours, qui ne vivent que pour ce Dieu, et il y a la beauté des religions, cette beauté absolue de gens qui se donnent à une religion, et sans que moi je le fasse, sans que j'ai la même foi. Et je trouve que c'est une beauté extraordinaire, c'est pour moi une des plus belles choses qui soient au monde. Pour moi, les moines de Solesmes, c'est un absolu. Et c'est ça qui me bouleverse de plus en plus dans la musique, c'est le chant. Parce que quand tu n'auras plus rien, quand ce sera le chaos, quand tu n'auras plus une maison sur terre, s'il reste quelqu'un, il restera le chant. C'est-à-dire cette acmé de la musique qui partira du fin fond d'un corps humain. Pour moi, le chant, c'est vraiment l'humanité qui s'exprime. C'est quelque chose qui a une complétude absolue. On a ce sentiment d'éternité. On entend quelque chose qui sera toujours pareil parce qu'on ne peut pas aller plus loin.
Avec quel morceau vous voulez qu'on se dise au revoir, Régis Geoffrey ?
Eh bien, avec l'Alléluia des Profondis.
Merci Anna Sigalevitch pour cette semaine.
Merci beaucoup Bruno.
Et vous revenez la semaine prochaine?
Oui.
Avec Anne Wenfeld à la réalisation et votre première invitée lundi sera Jeanne Haddad.
France Inter, le 13-14.
Le vif de l'histoire, bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno.
On connaît Michel Pastoureau pour ses différentes histoires des couleurs. Il s'intéresse aussi aux animaux, comme le prouve entre autres son dernier livre.
Oui, après le loup et le taureau, c'est un livre consacré aux corbeaux, n'y voyez pas d'allusion aux prêtres et aux moines dont on vient de parler longuement. Pastoureau prévoit dans une belle collection illustrée aux éditions du Seuil, le renard, l'aigle, le cerf, l'âne et le coq.
Bon,
on sera au cœur du bestiaire animal européen qui est composé d'une vingtaine d'espèces selon lui.
Bon, allons-y, il était une fois un corbeau sur un arbre perché.
On se souvient peut-être que Rousseau, étudiant l'éducation qu'il faudrait donner à son Émile, se moquait de chacune des formules de la fable. Mais qu'est-ce que c'est, demandait-il, qu'un arbre perché? Qu'est-ce que c'est qu'un phénix des hôtes de ce bois? Eh bien oui, qu'est-ce que c'est qu'un corbeau? Ben, c'est un observateur des mœurs de l'homme qui n'a pas son pareil. En Scandinavie, le dieu Odin confie à deux corbeaux le soin de lui rapporter tout ce que font les uns et les autres. Les corbeaux viennent livrer leur compte-rendu chaque matin. Le premier parle à l'oreille droite du dieu et le second à l'oreille gauche. Autre mythe, en Grèce, Apollon est surtout préoccupé de savoir ce que peut bien faire la princesse Coronis, c'est pas loin de Corneille, dont il est amoureux. Mais le fier corbeau blanc, à qui il donne cette mission de renseignement, manque de concentration, sans doute vorace comme tous les corbeaux, s'en va-t-il dévorer un morceau de viande, peut-être jusque sur un autel d'Apollon? En tout cas, il n'a pas vu la princesse qui s'en allait rejoindre un mortel. De colère, Apollon a transformé son plumage de blanc, il est devenu noir.
C'est donc cela, voilà pour la mythologie. Dans l'univers chrétien non plus, le corbeau n'attire pas la sympathie.
À la source, la Bible, Noé, depuis son arche, envoie des oiseaux repérer si le déluge a enfin commencé à refluer. Le corbeau s'attarde, il doit sans doute se nourrir des charognes qui flottent au fil des eaux. Et c'est la blanche colombe qui rapporte une branche d'olivier et qui est la messagère du salut. Ensuite, les pères de l'Église, à commencer par saint Augustin, que Pastoureau soupçonne de zoophobie, sont, sauf exception, hostiles aux corbeaux. Héritier inconscient de cette longue tradition, le naturaliste Buffon, homme des Lumières pourtant, et encore plus hargneux, son plumage est lugubre, son cri plus lugubre encore, tout son corps exhale l'infection.
Alors, qui lève le doigt pour défendre le corbeau? Les scientifiques aujourd'hui?
Ah bah oui, le corbeau prend sa revanche, figurez-vous, qu'il sait compter au moins jusqu'à 12.
Alors?
Fabriquer des outils, et même des outils qui en créeront d'autres. Et il a, Bruno, une mémoire étonnante. Enfin, j'irai pas jusqu'à affirmer qu'il se souvient des insultes reçues de Buffon au XVIIIe siècle, mais il sait reconnaître parmi les hommes qu'il a fréquentés, au long de cette année par exemple, ceux qui se sont comportés en amis et ceux qui se sont comportés comme Buffon.
En fait, à force d'observer nos faits et gestes, il nous connaît comme personne.
On a commencé avec une fable, je voudrais finir avec une fable. Le film du grand Pasolini, Uccellacci et Uccellini. 1966. Toto, le fameux comique, et le jeune Ninetto Diavoli, l'acteur fétiche du cinéaste, avance sur une route quand les rejoint un corbeau. Non seulement le corbeau parle, mais il a beaucoup lu l'Évangile et Karl Marx. Il met en garde les deux compères sur les conséquences de leurs actes. Ninetto, c'est un jeune superficiel, inconscient. Il s'en va réclamer à une fermière misérable les quelques sous qu'elle lui doit. Et le corbeau avertit, attention, les plus petits uccellini finiront par être mangés par les plus gros uccellacci. Et les deux hommes s'agacent des avertissements du corbeau et ils le renvoient. Ils vont perdre leur part d'humanité, c'est pourtant le corbeau sagace qui leur indiquait la direction.
Michel Pastoureau, Le Corbeau, une histoire culturelle, c'est au seuil. Et on peut réécouter l'émission de Mathieu Vidard lundi, si ce sujet vous passionne. Michel Pastoureau était l'invité de Mathieu. Merci Jean Lebrun.